Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire de Lyon. C'est parti. Eh bien, bonsoir donc à toutes et à tous. Comme tous les mercredis de 20h à 21h, vous avez l'émission Idées Noires, l'émission animée par les militants et militantes ce soir de l'UCL, l'Union communiste libertaire de Lyon. Et on va partir tout de suite, immédiatement, sans attente.
Sans attente, avec le grand rendez-vous qui va animer cette fin de semaine, donc qui va consacrer une large part de cette émission Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Demain, c'est le 25 novembre, et le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, journée de lutte internationale. Et on va consacrer une large part de notre émission à ce propos, sur l'importance de cette journée, et au-delà de cette journée, des luttes auxquelles elle fait référence. Et bien sûr, tout ça dans le but aussi de promouvoir la manifestation de samedi, puisque ce samedi 27 novembre à Lyon, à 14h place Bellecour, il y aura une manifestation féministe qui fera écho à cette journée. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il était plus simple pour rassembler, d'organiser cette manifestation un samedi qu'un jeudi, mais elle s'inscrit dans le droit chemin et elle rebondit sur cette journée internationale de demain. Et on a la chance avec nous d'avoir des camarades de la FRAP qui sont présents à l'antenne dans cette émission et qui vont revenir en long, en large et en travers sur les luttes antipatriarcales aujourd'hui, sur cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et sur la manifestation de ce samedi 14h place Bellecour. On vous le rappelle et puis on ne cessera de vous le rappeler tout au long de cette émission Idées Noires. Voilà, on va consacrer une large part à cette émission, donc à ce sujet. On aura aussi nos traditionnelles luttes syndicales et sociales, notre rubrique des luttes syndicales et sociales. Et puis, au-delà de tout ça, on reviendra aussi en fin d'émission sur les événements qui ont eu lieu à la Guillotière ce matin, et plus généralement sur la peste brune qui ne cesse de monter en cette période électorale et qui malheureusement sent de plus en plus mauvais et contre lequel il faut bien évidemment s'opposer, que ça soit à la Guillotière ou à Genève. Vous comprendrez pourquoi on évoque ce quartier et cette ville. Avant de commencer, pour commencer cette émission Idées Noires, on aimerait néanmoins rendre un hommage à notre camarade Gemma qui nous a quittés la semaine dernière à presque 70 ans. Gemma, militante bien connue de tous ceux qui ont côtoyé le mouvement libertaire au cours des dernières décennies, militante libertaire de la Croix-Rousse, militante libertaire du collectif La Griffe, qui était de toutes les mobilisations par son engagement, par sa bonne humeur, par sa solidarité, sa convivialité, et qui malheureusement va nous manquer parce qu'elle ne sera plus là pour animer nos réunions, nos soirées de sa gouaille rieur, parce qu'elle ne sera plus là pour marquer nos manifestations de sa voix puissante qui exprimait l'indignation, la colère et les révoltes qui l'animaient et les révoltes qu'on partageait avec elle. Et Gemma qui ne sera plus là non plus pour participer aux différentes chorales dans lesquelles elle chantait et dans lesquelles elle exprimait, elle faisait résonner les chants libertaires qui ont marqué toute sa vie. Gemma nous a quittés, on va la regretter, elle va nous manquer. Elle sera enterrée, ses obsèques auront lieu demain à 14h au cimetière de la Guillotière. Pour tous ceux qui veulent lui rendre un dernier hommage, il était impensable pour nous sur cette émission Idées Noires de ne pas dire un petit mot pour elle, pour dire qu'on pense à elle. Gemma, fille militante anarchiste, fille de militants anarchistes et antifascistes italiens, on pense à toi, Bella Ciao, Ciao Bella.
mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai sulla montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Voilà, voilà, petit hommage donc à Gemma qui nous a quittés la semaine dernière. Elle est toujours parmi nous quand même, pour encore quelques années quand même, hein, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Donc voilà, vous êtes, ouais, vous êtes à l'écoute de Idées Noires, donc l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire de Lyon, et on va démarrer cette fameuse page avec la frappe.
Exactement, une page que
les camarades de la frappe.
Une page qui aurait certainement tenu à cœur à Gemma, justement, une page contre le patriarcat, contre les violences faites aux femmes. On vous le disait, on a le plaisir d'accueillir trois camarades de la frappe avec nous. Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue à Idées Noires. Et bah, tout simplement, pour nos auditeurs, est-ce que déjà vous pouvez dire deux mots pour présenter ce que c'est que la frappe, la fronde antipatriarcale?
Exactement. Alors, la frappe, c'est un collectif anarcha-féministe. On est une commission, la commission antipatriarcat de l'UCL Lyon. Et on fête d'ailleurs cette année, non un an, là, justement, ce mois-ci, avec cette belle manifestation à venir samedi. Et donc, voilà, on est un collectif de militants et de militantes libertaires qui choisissons donc les moyens de l'autogestion, de l'autodéfense féministe. Et concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait outre le fait de participer à des manifestations, on organise pas mal de formations, des rendez-vous féministes également un peu plus informels, et également des cours d'autodéfense féministe. Voilà.
T'as été quoi depuis un an, les temps forts de la frappe?
Les grands temps forts de la frappe, donc ça a été, sur le rassemblement l'année dernière, justement, pour cette journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça a été le premier rassemblement de la frappe. Et puis il y a eu 8 mars, il y a eu également une grosse journée de formation sur l'antipatriarcat que la frappe a organisée dans les locaux de la Plume Noire, fief. De la Plume Noire.
Il y a eu le rassemblement pour le droit à l'IVG aussi.
Exactement.
En septembre.
Ouais.
Le 28 septembre.
Également, ouais.
Et c'est la manifestation antifa à laquelle on était présente fin octobre pour représenter les couleurs de la frappe.
Exactement, parce que la frappe n'est pas présente que sur les rendez-vous féministes. On essaye d'avoir une lutte assez une lutte totale, une lutte anticapitaliste contre le fascisme. Particulièrement important en cette année d'élection. Et également une lutte pour l'écologie, donc présente sur tous ces rendez-vous-là.
Alors aujourd'hui, vous avez fait le choix et vous avez décidé de venir vous présenter sur cette antenne de Radio Canu dans Idées Noires. La date n'est pas choisie au hasard. Qu'est-ce que la journée de demain, cette journée du 25 novembre, a à la fois de symbolique et à la fois de très concret par rapport aux luttes antipatriarcales qu'on peut mener aujourd'hui ?
Effectivement, demain, c'est une journée importante pour les féministes. C'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et historiquement, en fait, c'est une journée importante parce qu'elle a été instituée par des collectifs féministes colombiennes en 1981. Justement pour commémorer l'assassinat sanglant des sœurs Mariposa, qui étaient des donc les sœurs Mariposa, c'était des militantes d'extrême gauche qui ont joué une part active dans la lutte contre le régime de Rafael Trujillo en République dominicaine.
Et qui ont été assassinées pour ça.
Ouais. Exactement. Elles ont payé cher leur engagement politique. Donc c'est important de leur rendre hommage à travers cette journée. C'est une journée qui ensuite a été instituée, il me semble, par l'ONU.
Par l'ONU en 99.
Ouais. Comme journée internationale contre les violences, quelque chose de plus universel.
Oui, mais sans mentionner les femmes. Enfin, oui. Juste contre les violences en général.
Donc. Exactement. Mais je pense que c'est important de rappeler que c'est quand même un rendez-vous féministe, justement.
Oui. Rendez-vous féministe qui permet justement de faire le point et de pointer du doigt et de médiatiser, de sortir de l'ombre et de l'invisibilité l'ensemble des violences qui sont subies par les femmes ici ou ailleurs. C'est quoi la triste réalité, le triste constat que vous faites à la frappe aujourd'hui de la réalité des violences patriarcales ?
De manière très concrète, je pense que c'est important de citer quelques chiffres. On va rappeler quelques chiffres qui sont quand même assez criants de vérité. Donc le constat cette année, c'est que dans le monde, une femme sur trois est encore victime de violences physiques et sexuelles.
60% des victimes de viol sont mineures.
Et dans 81% des cas, les premières violences sexuelles sont infligées avant 18 ans.
Il y a également plus de 80% des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite en France.
Et 93 000 personnes subissent un viol ou une tentative de viol chaque année. Et ce qui est assez criant, c'est que seulement 1 000 aboutissent à une condamnation, donc ça fait 1%.
Et on va également rappeler qu'il y a eu à ce jour 102 féminicides en France cette année, donc pour 2021. Donc ça, c'est les chiffres de nous toutes.
Voilà. Donc c'est des statistiques qui ont été émises par le collectif Droits des Femmes, qui est le collectif organisateur de cette manifestation. C'est peut-être important de rappeler un petit peu ce que c'est que ce collectif. Donc c'est un collectif national. Qui regroupe tant des associations et des collectifs féministes tels que le Planning, Nous Toutes, MeToo, mais également des organisations et des partis politiques. Donc on va retrouver le PCF, le NPA et l'UCL.
La CGT aussi ?
Oui, la CGT et la FRAP.
Une journée comme la journée de demain, pour vous, ça a quel intérêt ? Ça a quel sens ?
Donc c'est une journée extrêmement symbolique, donc de par cette commémoration historique dont on a parlé plus tôt, mais c'est également, enfin en tout cas pour nous en tant que collectif anarcha-féministe, c'est le moment de rappeler aussi que l'action de l'État est totalement insuffisante. Pour lutter contre le patriarcat et les violences qui en découlent. On l'a vu quand même, là c'est en cette fin de quinquennat, on ne peut que déplorer les vagues mesures qui ont été prises pour tenter de lutter contre les violences patriarcales. Et nous, En tout cas, ce qu'on, nous, en tout cas, on revendique pas des, enfin, on n'entend pas passer par une action de l'État pour se libérer du patriarcat. Nos solutions, elles sont profondément anti-étatiques parce que l'État n'a fait que nous. Disons que les actions contre le patriarcat de l'État étaient quand même majoritairement islamophobes et racistes. Donc forcément, on n'a pas envie de solliciter plus l'État pour ça. Nous, on préfère prôner une solidarité féministe totale face à ces violences, passer par les moyens de l'autogestion et de l'autodéfense, plus que solliciter des aides de l'État.
Et en plus, enfin, déjà, ces mesures islamophobes, racistes, xénophobes, comme tu le disais, Mata, on rappelle quand même qu'au sein du gouvernement, il y a toujours notre cher Darmanin, au ministère de l'Intérieur, qui est accusé de viol, et Monsieur Dupond-Moretti aussi. Donc, c'est vrai, ça a vraiment été une insulte à toutes les femmes, le fait qu'ils soient à la tête de deux ministères.
Ouais, Darmanin démission, hein, définitivement.
Et puis on se rend bien compte qu'à l'heure de tirer les bilans, que par rapport aux intentions et aux grands discours affichés et proclamés, le discours de Macron lors de justement de sa première année, à l'occasion de cette journée contre les violences faites aux femmes, où il avait fait soi-disant d'une des priorités du quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes par les moyens attribués pour les victimes de violences ou aussi par le développement de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire pour faire de la prévention contre aussi bien la diffusion de violences et la diffusion des stéréotypes à travers les réseaux sociaux, les médias et autres, que ça a été des grands discours d'intention et que dans la réalité, aucun moyen concret n'ont été, à part un saupoudrage symbolique à droite, à gauche, rien n'a été réellement fait pour pouvoir changer la donne, que ce soit dans l'aide aux victimes ou que ce soit dans tout simplement des vrais dispositifs d'éducation à l'égalité, à la sexualité, au respect des identités, des orientations sexuelles, qui n'ont pas été du tout promus au cours de ce mandat, malgré ce qui était annoncé. Et comme vous l'avez si bien fait remarquer, au contraire, les mesures symboliques qui ont été prises ont été de prendre des agresseurs parmi le personnel politique au fil de la mandature. Donc c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il n'y a rien à attendre des gouvernements, et il n'y a pas grand-chose à attendre des futurs gouvernements non plus, et que c'est par les formes d'auto-organisation telles que vous les proposez à la FRAP qu'on pourra au quotidien faire reculer le patriarcat et lutter contre les formes de domination masculine qui s'exercent dans notre société. Alors justement, si c'est au quotidien, si c'est par toutes ces formes d'auto-organisation qu'on va pouvoir faire reculer les choses, les journées comme demain, elles ont un rôle symbolique de mise en lumière aussi, de conscientisation et de médiatisation des violences qui peuvent être subies par les femmes. On peut penser aussi à la journée du 8 mars qui peut promouvoir le droit des femmes partout dans le monde et montrer encore le long chemin qu'il y a à conquérir ici ou là-bas dans un chemin dans l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les orientations et les identités sexuelles. Mais la lutte contre le patriarcat, elle ne s'arrête pas au 25 novembre, elle ne s'arrête pas au 8 mars.
Non, complètement. La lutte contre le patriarcat, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Et c'est vrai que, ben justement, oui, ces gros rendez-vous, ça permet de médiatiser, de mettre en lumière ce qu'on vit au quotidien. Mais c'est aussi des moments qui sont très importants pour nous en termes de rassemblement entre nous, de solidarité, de rencontres, de montrer aux femmes et aux minorités de genre qui subissent le patriarcat de manière bien plus violente que les femmes cisgenres, hein, on les oublie pas. Et c'est le moment de se rassembler et puis de conscientiser le fait qu'on n'est pas seul, qu'on peut mener une lutte tous collective. Ensemble, collective, exactement. Et puis voilà, de faire de la médiation entre nous et que militer, c'est un travail au quotidien, c'est pas que aller en manifestation, c'est nos réponses quotidiennes face aux oppressions qu'on vit. C'est rien lâcher aussi.
C'est rien lâcher, tout à fait.
C'est quelque chose qui se construit au quotidien et qui, en effet, ces journées peuvent permettre de relais pour médiatiser, en effet, certaines formes de domination. On peut penser à ce week-end, il y avait la journée de commémoration aussi par rapport aux trans qui ont été victimes de discrimination.
Ouais. Je sais pas
si vous, le thé d'or, si vous voulez en dire quelque chose.
Bon, alors, n'étant pas concernée, c'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler, mais oui, c'était une journée extrêmement importante pour la communauté trans, une journée de commémoration des victimes quotidiennes de la transphobie partout dans le monde. D'ailleurs, à ce sujet, alors évidemment, on a très peu de chiffres, hein, parce qu'il y a très peu d'organismes qui recensent les victimes de transphobie, mais quand même, je tenais à rappeler qu'il y a 375 personnes trans qui sont mortes dans le monde cette année, victimes de transphobie. Et c'est un chiffre qui est particulièrement alarmant, puisqu'il est en augmentation continue de 7%. Donc on ne peut que déplorer le manque d'action des instances étatiques, notamment à ce sujet. Et c'est peut-être le moment de rappeler, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de prôner, en tout cas à la frappe, que le féminisme, en tout cas notre féminisme, on ne l'entend pas sans les personnes trans, sans les personnes intersexes, sans les personnes non-binaires. C'est un féminisme total qui nous libérera, nous le pensons en tout cas, du patriarcat.
Et c'est aussi pour cela qu'on a décalé la date de la manifestation, parce que ça tombait du coup le même jour que la commémoration du souvenir trans. Et malheureusement, nous, toute Paris n'a pas décalé la date. Mmh. Et pour nous, c'est très important d'avoir fait cela, parce que il faut laisser à chaque cause sa place dans notre cause commune, en fait.
Complètement.
Tu veux dire par rapport au week-end dernier ? Pourquoi ne pas,
oui,
ne pas fait, avoir fait
par
la
rapport au week-end dernier.
Comme ça a été fait dans de nombreuses villes, autres villes de France.
Comme à Paris ou Montpellier, par exemple.
Ou Perpignan. Alors justement, c'est important ce que vous soulignez, cette approche globale, de se dire que demain, si c'est la journée des violences faites aux femmes, il faut l'entendre quand on se met dans une posture anarcha-féministe et libertaire d'une façon globale, c'est-à-dire que c'est pas simplement la journée des violences, même si elles sont indéniables, elles sont peut-être en termes de nombre les plus importantes faites aux femmes, comme tu l'as dit, cisgenres, mais c'est la violence aussi faite à toutes les identités, à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans d'autres identités sexuelles, dans d'autres orientations sexuelles qui sont niées et pour lesquelles ils subissent des violence au quotidien de la part d'un système qui est un système global, qui est le patriarcat, qui est là pour maintenir la domination masculine et l'hétérosexisme dans nos sociétés. Et donc à travers ces journées-là, on peut aussi aborder de façon globale cette mobilisation.
Exactement, et à travers justement cette journée-là, nous on se mobilise, la réponse qu'on tend à apporter face à ces violences, c'est aussi une réponse politique globale, c'est-à-dire une mobilisation contre le capitalisme. On y tient quand même particulièrement à la frappe, parce que voilà, on sait que bien que le patriarcat soit un système à part entière, on sait que le système patriarcal et le système capitalisme, en tout cas nous on l'analyse comme ça, se nourrissent l'un l'autre et agissent justement, renforce en fait ces violences qui sont faites sur les femmes, sur les minorités de genre, sur les minorités sexuelles également, comme tu l'as dit, ce fait d'imposer un système hétéronormatif, une famille nucléaire, donc avec un papa, une maman, c'est important de préciser qu'on est vraiment dans une lutte contre le système dans sa globalité. Et cette pluralité.
Et cette lutte contre le système capitaliste, très concrètement, pour illustrer vos propos, on sait qu'aujourd'hui, le libéralisme et le capitalisme cessent de creuser les inégalités. Et on sait que parallèlement à ça, les premières victimes des inégalités sociales, ce sont bien souvent les femmes, ce sont bien souvent les minorités de genre et les minorités de sexe. Et que ces inégalités, cette misère et cette précarité qui frappent en premier lieu les femmes, c'est aussi ce qui augmente les violences contre elles, ce qui pousse à la prostitution, ce qui pousse au trafic d'êtres humains dont les femmes aujourd'hui sont les premières victimes. Et donc on voit bien qu'il y a un lien entre la domination masculine exercée par le patriarcat et les inégalités sociales qui sont creusées et qui sont menées par le système capitaliste.
Complètement, hein. On rappelle que c'est les femmes qui occupent majoritairement les métiers qui sont liés, liés au care. Donc le fait de s'occuper des gens, hein, majoritairement plus d'infirmières que d'infirmiers, plus d'aides-soignantes que d'aides-soignants, et que c'est des métiers qui en plus sont particulièrement précarisés. Et c'est aussi pour ça qu'on n'attend rien du gouvernement, parce qu'on l'a, on l'a bien vu pendant ce quinquennat, qui n'a fait que renforcer la, la précarité du travail et détruire les associations et les institutions qui auraient pu pallier à minima aux problèmes de violence que l'on vit.
Et c'est pour ça que notre féminisme, il est intersectionnel avant tout, parce que ouais. ces métiers, enfin les plus dévalorisés et sous-payés, sont, enfin en tout cas, c'est les femmes racisées qui les occupent en grande majorité. Ouais. Malheureusement, on peut pas, on n'a pas de chiffres, parce qu'en France, la loi informatique et liberté nous empêche de faire, enfin de produire des données basées sur l'ethnicité et la race des personnes concernées. Mais voilà, c'est pour ça que, enfin, notre féminisme est intersectionnel, parce qu'il prend en compte toutes toutes les victimes du patriarcat et de tous les autres rapports de domination possibles.
Et puis au-delà de ça, on voit très bien qu'aujourd'hui, dans le contexte politique mondial, on est quand même dans une offensive réactionnaire et nationaliste qui entraîne un certain retour de l'ordre moral, et dont là encore, les femmes et les minorités sont les premières victimes de ce retour de l'ordre moral, avec des atteintes très concrètes contre des droits essentiels, en l'occurrence le droit à la contraception et le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui remet en cause cette revendication fondamentale des femmes de librement disposer de leur corps, de leur sexualité et de leur désir ou pas de maternité, pour pleinement pouvoir être libre, et qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, on a une offensive réactionnaire contre ces questions qui sont des libertés fondamentales. C'est le cas aux États-Unis, avec ce qui s'est passé au Texas, dont on a parlé à plusieurs oui. reprises sur cette antenne. Sans aller si loin, c'est le cas en Pologne aussi, où il y a quelques semaines, une jeune fille est décédée parce que jusqu'au dernier moment, les médecins lui ont refusé l'avortement thérapeutique qui pourtant mettait sa vie en danger et qui finalement a abouti à son décès. Donc on se rend compte que très concrètement, sur de nombreux sujets, le droit des femmes, il est sacrément remis en cause, et on assiste à des véritables reculs. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, notamment pour les jeunes générations, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis, ouais. et que le combat pour l'égalité, le combat féministe, il a toujours raison d'être ici, d'être là, et que c'est pas parce que des droits ont été gagnés qu'ils vont pas être remis en cause si on n'est pas vigilant.
Tout à fait.
Ouais, complètement. Hein. On voit de toute manière que dans les revendications actuelles, y a aussi énormément de revendications que demandaient nos mères, nos grands-mères, déjà dans les premières et deuxièmes vagues féministes, notamment dans les années 60 et 70. Donc oui, c'est une lutte perpétuelle. Et effectivement, c'est important de ne pas se reposer sur les quelques maigres acquis qu'on a eus. Et tu parlais d'une montée du nationalisme. Et effectivement, c'est important, notamment par rapport aux événements qu'il y a eu à la dernière manifestation, donc le 20 novembre à Paris. On est assez alarmé par une montée d'organisation de groupuscules fémo-nationalistes qui se revendiquent féministes, qui instrumentalisent nos luttes, qui utilisent notre sémantique, nos discours à des fins profondément racistes et islamophobes. Et je pense que c'est important de bien faire des distinctions par rapport à ça, et que la haine sera jamais, enfin en tout cas nous on le prône, la haine ce sera jamais un moyen de se libérer.
On l'a vu très concrètement aussi dans les manifs anti-vax, ouais. dans les mouvements conspirationnistes qu'il y a pu y avoir, comment les revendications féministes de libre disposition de son corps et de sa sexualité en termes d'émancipation collective avaient pu être pris à des fins complètement libérales, et comment on avait vu des slogans historiques du mouvement féministe être retournés ouais. hein, dans des logiques qui étaient à l'encontre d'une émancipation collective et sociale. Quoi. Et en effet, il y a une véritable manipulation idéologique politique aujourd'hui qui est faite par les mouvements d'extrême droite, par ces groupuscules, comme tu dis, qui savent très bien manier la confusion dans les formes d'action, dans le discours, et qui en sont même jusqu'à reprendre des revendications historiques du mouvement féministe, alors qu'on sait très bien que ça va servir uniquement à une chose, c'est à nourrir un projet de société qui sera complètement réactionnaire et dont les femmes en seront une fois de plus les premières victimes et qui se retrouveront enfermées dans le rôle de mère ou de putain et qui seront enfermées à la maison comme on l'a toujours vu dans les régimes autoritaires. Donc soyons particulièrement vigilants, c'est pour ça que cette journée de demain elle est importante, c'est pour ça que c'est important que vous soyez venus vous exprimer ce soir, que c'est important que des collectifs comme la FRAP existent et continuent à se mobiliser au quotidien, pas simplement lors de ces grandes journées. Vous pouvez peut-être nous rappeler quand même le rendez-vous de samedi, important, on a dit qu'on le rappellerait à plusieurs reprises au cours de cette émission.
Oui, bien sûr. Donc du coup, le rendez-vous, c'est samedi 27 novembre. Rendez-vous à 14h, place Bellecour. Donc les festivités débuteront avec une performance qui est organisée par Filaction, qui est quand même une association féministe assez historique également. Et ensuite s'en suivront une prise de parole, enfin plusieurs prises de parole de différents collectif du collectif Droits des Femmes, également une prise de parole du collectif des Sans-Papiers de Lyon, qui a été particulièrement actif cette année et que en tout cas à la FRAP on soutient énormément, force à elle. Et voilà, donc ensuite le départ de la manifestation se fera aux alentours de 15h, toujours depuis la place Bellecour.
Donc rendez-vous est pris, on vous attend nombreuses et nombreux samedi 27 novembre à Lyon pour cette manifestation féministe pour dénoncer les violences faites aux femmes, ici ou ailleurs. On espère qu'on sera nombreux dans la rue ce samedi. Peut-être pour terminer, des projets pour la FRAP, à court terme, à long terme.
Oui, complètement. Des projets pour la FRAP, on entend développer nos cours d'autodéfense. Donc on va avoir une super salle bientôt qui sera prêtée par la CGT. Les développer sur plusieurs formats, plusieurs types de cours. Et je rappelle que ces cours sont ouverts à toutes et tous. Il n'y a pas besoin d'être militant pour participer à nos cours. Faut juste avoir la pêche et puis venir. Que si vous êtes intéressé par la FRAP, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la Plume Noire. On organise des permanences les mercredis et les samedis après-midi.
On a aussi pour projet de développer le compte Instagram. Oui. Voilà, pour avoir une place, enfin gagner en termes de médiatisation, pouvoir toucher un public plus large.
Complètement.
Donc restez connectés, on arrive.
Et les cafés féministes qui se tenaient à une époque, l'idée de les reprendre aussi ?
Oui, on les reprend. Alors on les a repris tout doucement en début d'année, mais de manière dans nos réseaux internes, de manière un peu plus informelle. Mais oui, on va essayer de programmer des rendez-vous tous les deux semaines sous différents formats. Donc ça pourrait être avec des invités pour des petites conférences, des projections de films, des ateliers.
Préparation, banderoles, pancartes, avant la manif, on avait fait ça en septembre.
Exactement. Des rendez-vous... Parfois en non-mixité ou alors en mixité, ça dépendra des moments.
Et des sujets aussi.
Exactement. Exactement. Et c'est vrai que, alors, ça n'avait pas pris la forme d'un cas féministe, mais récemment, quand même, on a eu, je pense qu'il est important de le rappeler, on a eu la présence de Pauline Klochek, l'une des autrices d'un ouvrage qu'on vous recommande fortement, qui s'appelle Matérialisme trans, qui est une petite révolution dans le milieu intellectuel qui est le nôtre. Donc voilà, on tend à vouloir organiser plus de moments comme ça en convivialité.
on ne manquera pas en tout cas sur cette antenne d'Idées Noires de relayer tous ces rendez-vous.
Super.
Merci en tout cas d'être venu ce soir.
Merci pour l'invitation.
On se retrouve dans la rue samedi.
Ouais.
Et puis vous êtes ici chez vous, vous revenez bien sûr quand vous voulez. Le micro est toujours ouvert pour faire résonner l'écho des luttes antipatriarcales et des luttes féministes. Pour terminer, vous avez choisi un morceau de musique. On vous laisse nous le présenter.
Alors oui, avec plaisir. Donc c'est un morceau qui nous tient particulièrement à cœur parce que il a été fait par une rappeuse militante féministe lyonnaise. C'est que du local, c'est du très très lourd. Elle s'appelle Ona. Vous pouvez la retrouver sur Instagram O-N-A-O, il me semble,
tiré du bas.
Tiré du 8. Sur YouTube et toutes les plateformes de diffusion. Et on vous laisse kicker ça.
Et ça s'appelle
Meuf en bande.
C'est parti.
T'as besoin que je t'explique? Ouais, fais bien qu'en femme à clic de meuf hystérique.
Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes bien sûr à l'écoute d'Idées Noires, la plus rebelle des émissions sur la plus rebelle des radios, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On était en compagnie de la FRAP, la Fronde Antipatriarcale, qui est venue nous parler de la journée contre les violences faites aux femmes demain, jeudi 25 novembre, et puis au-delà de ça, de la manifestation en écho ce samedi 27, manifestation, on vous le rappelle, à 14h, place Bellecour. On va poursuivre notre émission avec nos traditionnelles rubriques sur les luttes sociales et syndicales, mais avant, faire un tout petit rectificatif par rapport à notre début d'émission, par rapport à l'hommage que nous avons rendu à notre camarade Gemma qui nous a quitté la semaine dernière. Certainement c'était l'émotion qui nous a fait nous tromper. Les obsèques de Gemma auront pas lieu demain comme annoncé, mais après-demain, vendredi. C'est ce vendredi qu'on ira lui dire un dernier adieu au son de Bella Ciao, comme on l'a fait entendre au début de cette émission, vendredi à 14h au crématorium du cimetière de la Guillotière, pour toutes celles et tous ceux qui veulent dire au revoir à cette militante libertaire des pentes incontournables, des pentes de la Croix-Rousse et du collectif Libertaire de la Griffe, qui nous a quittés à presque 70 ans la semaine dernière. Voilà, on pense à elle et puis merci de nous avoir signalé cette petite rectification importante. C'est bien vendredi qu'on dira au revoir à Gemma. Voilà, la vie continue, les luttes continuent pour autant. Et ben Daniel, à toi de nous faire comme d'habitude écho de tous ceux et toutes celles qui luttent ici ou ailleurs pour un monde meilleur.
Un mois de juillet, donc j'avais commencé le mois de novembre il y a 15 jours, puisque la semaine dernière on n'avait pas fait d'émission, ce qui fait que j'en ai plein en magasin. Alors on va continuer avec ce mois de novembre, c'était le 7 en fait, chez le boulanger industriel Norpin. Eh bien, les fours sont restés froids chez Norpin, 370 personnes en manifestation au mois d'octobre à Dieppe dans un premier jet donc, de la colère des salariés de cette entreprise du groupe Norac qui sponsorise à gogo un bateau de la Transat Jacques Vabre à coût de millions, alors que les salaires transitent eux par le SMIC. Alors selon la CGT qui est sur le pont, les grévistes exigent plus de respect de la hiérarchie, une compensation financière, et chez Norpin, ben, on bosse 7 jours sur 7 toute l'année. 50 personnes étaient sur un piquet de grève pour obtenir 200€ de mieux et un 13e mois pour tous et toutes, 5€ de prime d'équipe et le retour des pauses café, plus de places de parking, la remise en état des vestiaires, 20 contrats en CDI avant 2022, n'en jetez plus, la cour est pleine. Ça coûte cher donc aux salariés la sponsorisation dans le sport de haut niveau. La direction qui n'a quand même pas mis les voiles est venue à la rencontre des travailleurs et des travailleuses grévistes qui eux et elles rament dans le même bateau des capitalistes qui posent leur derrière sur des transats. Cahors, c'est dans le Lot avec Maec, c'est la société Maec qui fait dans le matériel de production électrique et même de la distribution de l'eau et du gaz, tout dans le même tuyau. Alors ce 8 novembre, un débrayage de 2 heures, puis la grève, belle et bonne et plus efficace. C'est une suite donc lors d'un conflit précédent, un protocole avait été signé mais non respecté. Une grande partie des travailleurs et des travailleuses, 300 personnes, ont décidé un nouveau conflit après 7 mois d'attente, et cela jusqu'au 10 novembre. Un PSE est en place, ça a été mis discuté au mois de juillet de cette année, et rien n'y fait depuis mars 2021. Une promesse d'investissement. La PDG donc revient sur cette promesse selon EFO. Désormais, un démantèlement est à craindre et une délocalisation. Et le 10, face à une menace patronale et d'un juge, le piquet a été levé sous peine de poursuite. À Domazan sur Arize, c'est dans l'Ariège, c'est une coopérative agricole, la CAPLA. C'était le 9 novembre avec la CGT qui donc ici déclare la grève. La direction de la coopérative agricole des producteurs de la Lèze et de l'Arize, donc CAPLA, par cette mobilisation se trouve devant le fait accompli. C'est un soutien pour un collègue licencié de manière brutale. À Bonnétable, dans la Sarthe, c'est la Poste hein, qui refait surface un petit peu dans les luttes en ce moment. Ce 8 novembre, c'était une grève au centre de distribution et même 3 jours au 10 novembre pour s'opposer à la réorganisation des tournées contre la surcharge de travail occasionnée, et cela depuis quelques mois. Les postiers et postières ne souhaitaient qu'une chose, des moyens pour travailler dans de meilleures conditions, assurer leur mission. Bon, voilà, c'est une mission de service public, transformer des CDD des contrats à durée déterminée, évidemment précaires, en contrats à durée indéterminée. Aucune garantie de la direction. La grève se poursuivait donc après cette date. À Saint-Apollinaire, c'est en Côte d'Or avec une grève le 8 novembre menée par Sud Autoroute chez APRR, donc Autoroute Paris-Rhin-Rhône, comme tout le monde sait, du groupe Eiffage depuis depuis 2006, hein, depuis cette fameuse privatisation de 2006. La quinzaine de grévistes exige de meilleures conditions de travail. L'effectif de 3500 salariés est passé à 2800 et qui est en baisse. L'effectif est en baisse constante depuis la prise gestionnaire par Eiffage. Les départs, donc retraite et démission, donc ils ne sont pas remplacés, bien entendu, c'est monnaie courante. Alors le chiffre d'APPR, hein, je vais vous le donner, ça m'amuse ça des fois de temps en temps. Eh bien ça fait, je vais vous le dire, ça fait 1 633 200 000 euros, très exactement. Donc Eiffage, c'est le consortium EFRI avec la banque Macquarie, qui est une banque australienne, qui est le troisième groupe après Vinci et Bouygues en TP, c'est-à-dire en travaux publics. 66 000 salariés dans le monde et le chiffre d'affaires de 2019 est près de 19 milliards d'euros. Tout à l'heure, ce que j'ai donné, si c'est un chiffre d'affaires aussi. Oui, d'APPR, pardon. Là, c'est celui de Eiffage. À Provins, dans la Seine-et-Marne, c'est EPMS, établissement public médico-social. Les salariés sont en grève. En cause ici, la prime crise sanitaire, 183 euros. Eh bien, ils n'en ont pas vu la couleur. C'est le 10-11 que le mouvement a démarré. Ils sont également exclus du Ségur, de ce Ségur de la santé. La CGT maintient l'ambiance de ras-le-bol de ne pas être considérés comme des soignants et soignantes. En Moselle, c'est l'APEI cette fois, c'est l'association des parents d'enfants inadaptés qui sont du département donc, de la Moselle. Les salariés, 15% de l'effectif de 1200 personnes, annoncent la couleur ce 9 novembre pour leur salaire qui n'en a plus de couleur. C'était le message qui a été envoyé à la direction en même temps. Revoyez aussi les conditions de travail. La CGT et FO dénoncent un manque en tout. Rassemblement, il y a eu un rassemblement à Thionville, à Saint-Avold, de 75 à 250 salariés pour une revalorisation de la prime Macron reçue à 150 euros alors que 1000 euros seraient bienvenus. Alors ça a été refusé car les caisses sont vides. Grève reconduite le mercredi 10. Les négociations sont en cours également pour obtenir le Ségur qui n'est pas dans les attributions donc de la direction comme les conditions de travail. Enfin, c'est les réponses qui ont été données aux grévistes. À Toulouse, ce 10 novembre, outre la fraîcheur qui règne au dehors, c'est celle des frigos de l'établissement. Il y avait celle de l'ambiance aussi au sein de la STEF. Oui, c'est ça l'établissement en question. C'est la Société des Transports de Logistique sous température dirigée. Hein, c'est des camions frigos, hein, tout bonnement. Alors en effet, c'est la grève dans l'établissement. Une première depuis 20 ans, ou la dernière date plutôt depuis 20 ans. 169 salariés, 70% ont suivi selon la CGT, FO et Sud. Ici, c'est encore la direction qui gèle les acquis. Exemple, la prime de participation, 1000 euros qui passe sans délai à 80 euros, alors que les bénéfices sont garantis. Exige 400 euros, c'est pas 1000. Tant pis, on contentera de 400 euros. Des embauches, ils réclament également des embauches, un meilleur taux horaire et la direction ne cède pas, fidèle à son histoire et qui n'aime pas les syndicats et les syndiqués. Là aussi, j'ai un peu de chiffres à vous donner avec un chiffre d'affaires 2019 à près de 3,5 milliards d'euros. Conditionnement et transport donc de produits agroalimentaires, c'est le travail de la STEF. Et puis pour terminer, le Bourget dans le 93 avec une autre plateforme logistique, c'est H&M, on est là dans le prêt-à-porter et c'est une suite du 7 octobre avec une délocalisation, je rappelle, 150 suppressions d'emplois, la fermeture à la clé, une intersyndicale gréviste contre ce projet. Et le 30 octobre, un accord qui donnait des obligations, donc qui obligeait donc l'employeur du maintien de l'emploi au maintien de l'emploi et paiement des jours de grève, pas de poursuite. Et puis cette aussi tentative par le feu d'une personne, d'un salarié qui a été ensuite emmené aux urgences. L'activité donc a repris au Bourget. Ils ont sauvé en quelque sorte leurs emplois, mais jusqu'à quand, quoi? Voilà, c'est toujours la même question. On gagne, mais qu'est-ce qu'on peut gagner?
On aurait pu se poser la même chose à propos des Molinex, dont tu nous as souvent parlé aussi, Daniel.
Ouais.
Allez, on va faire une dernière pause musicale sur 102.2 de Radio Canu. On va retrouver la fraction qui nous chante le bruit pour faire écho à tous ceux qui aimeraient faire revenir le bruit des bottes. Ça nous permettra de revenir sur ce qui s'est passé ce matin dans le quartier de la Guillotière à Lyon et qui a fait aussi beaucoup de bruit. Allez, la fraction, et après,
c'est parti.
On parle de nos amis les bêtes.
Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de l'UNCL, l'Union communiste libertaire de Lyon. Et on va passer à cette fameuse page de, comment tu les as appelés, là, les amis de, les bestioles.
Notre rubrique animalière sur, d'accord, nos amis les bêtes. Autre, okay, façon de parler d'antifascisme, puisque en effet, ce matin, l'antifascisme a revendiqué de façon haut en couleur dans le quartier de la Guillotière à Lyon, dans le 7e arrondissement, puisqu'il s'y est déroulé un événement pas banal et dont on serait bien passé de voir et qu'on aimerait bien se passer de revoir. Vous savez que le quartier de la Guillotière, il est déjà depuis quelques semaines soumis à une grande agitation médiatique, hein, sur soi-disant l'insécurité qui peut y régner, une insécurité qui sert essentiellement à criminaliser la misère et puis ceux qui sont un peu trop basanés au goût de certaines associations mouvement réactionnaire comme la Guillotière en colère et qui aimerait un quartier aseptisé, propret et où la misère et la diversité culturelle soient écartées. Ce qui fait que la Guillotière est soumise au feu des médias et que bien évidemment, cette période électorale, quand on est soumis au feu des médias, eh ben, c'est tous ceux qui veulent aller à la soupe électorale qui reviennent ventre à terre pour tenter de participer à cette surenchère sécuritaire. Et aujourd'hui, on battait un peu tous les records. Alors, il manquerait plus que Zemmour rapplique pour qu'on continue dans la graduation. Mais on battait quasiment tous les records puisque ce matin, c'est Jean-Marc Morandini, l'animateur vedette de CNews. Vous savez, cette chaîne du groupe Bolloré, qui est un des instruments justement d'Éric Zemmour, qui est venu faire un direct à 10h30 dans le quartier de la Guillotière. Alors, pour faire un petit écho aux luttes antipatriarcales dont on parlait tout à l'heure, on a parlé de Darmanin notamment, mais on peut aussi quand même rappeler que cet animateur vedette qui vient sourire aux caméras et sous les feux de la rampe, et ben c'est quand même un présentateur réactionnaire qui a été accusé de harcèlement sexuel et de corruption de mineurs. Voilà, ça en dit long déjà sur le personnage et sur ses accointances. Et ben il était très bien entouré puisque pour son émission Face à la rue qu'il a fait ce matin en direct à 10h30 dans le quartier de la Guillotière, il avait invité personne d'autre que Jordan Bardella. Jordan Bardella, et ben vous avez bien compris, c'est bien lui, le président par intérim du Rassemblement National, premier parti raciste de France, Jordan Bardella, qui a pris l'intérim du parti, bien sûr, le temps que sa chef fasse sa campagne électorale pour les élections présidentielles et qui est venu déblatérer toute la haine qu'il pouvait avoir contre les miséreux et surtout les immigrés et les sans-papiers. Alors tous les deux, ce matin, 10h30, devant un ahurissant dispositif sécuritaire qui les protégeait, ils sont venus parader devant la place du Pont, place du Pont, la Guillotière, qui subit, on le dit depuis quelques semaines, une occupation policière quasiment permanente, des contrôles aux faciès, une chasse aux sans-papiers, et le tout qui est largement instrumentalisé par la préfecture, mais aussi par la mairie de Lyon, qui n'a pas hésité à jeter en pâture aux médias, qui sont, on le sait, à vide en permanence de sensationnels flash en cette période préélectorale, et une surenchère d'idées racistes et réactionnaires. Alors cette émission en question, qui est le Morandini Live, elle a déjà montré à plusieurs reprises de quoi elle était capable, puisqu'elle avait fait le même type d'émission dans le quartier de la Villette à Paris, pour diaboliser à l'époque les consommateurs de crack, et surfer là aussi sur la vague conservatrice qui était menée par la très socialiste Hidalgo, qui était venue s'enquérir des inquiétudes des riverains bien réactionnaires, sous le feu des projecteurs médiatiques. Et ben c'est la même chose qui était prévue ce matin, sauf que ça s'est pas totalement passé comme il l'avait prévu, puisque 200 habitants du quartier, militants antifascistes, militants associatifs, militants d'associations antiracistes et de solidarité avec les migrants du quartier de la Guillotière, se sont invités à la fête, se sont invités pour troubler la fête et ont perturbé au son de porcheries, des béruriers noirs, de feux d'artifice et autres, cette émission Morandini Live, qui a dû être protégé par les gros bras casqués et matraqués du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon, et bien évidemment près de 200 policiers qui encadraient en permanence le tournage de cette émission. Voilà, en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que il y a eu une réaction populaire qui a eu lieu dans le quartier pour faire résonner une fois de plus le fait que, à la Guillotière comme ailleurs, on veut pas de fascistes dans nos quartiers et qu'on refuse que la misère, elle ne disparaîtra pas à coup de grands discours, elle ne disparaîtra pas non plus à coup de LBD, à coup de répression, d'enfermement et de criminalisation, que c'est le partage des richesses et la lutte contre les inégalités sociales qui permettra de répondre aux problèmes de la misère et sûrement pas ces surenchères racistes et sécuritaires. Voilà, c'est sur ça qu'on voulait terminer cette émission et puis qu'on dit pas de racisme dans nos quartiers, c'est vrai à la Guillotière, on vous l'a dit aussi, c'est vrai à Genève, puisqu'aujourd'hui à Genève, on n'a pas eu encore d'informations. À Genève, en Suisse, de l'autre côté du lac Léman, il y avait une manifestation appelée par une coordination, l'Assemblée antifasciste de Genève, parce que c'était pas Bardella qui était là, mais c'était justement Zemmour qui venait à Genève dans le cadre de sa campagne électorale. On sait, Zemmour qui a fait fait sauter de nombreuses digues qui semblaient pourtant encadrées par le débat public, hein, en exprimant son racisme désinhibé, son obsession islamophobe, sa misogynie écœurante et puis sa réhabilitation systématique de la collaboration française mais aussi des guerres coloniales, autant de choses qui nous font vomir. Et ben Zemmour, il était à Genève et heureusement là aussi, pas de quartier dans nos fascistes, il y avait une réaction populaire avec une manifestation qui était appelée à 18h aujourd'hui à Genève. En cette période électorale, on a du pain sur la planche en matière de lutte contre les idées nauséabondes. C'est pas tout à fait un hasard, c'est aussi le résultat de la droitisation du champ politique français, on pourrait dire même mondial, qui est malheureusement en marche depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Mais là aussi, comme on le disait tout à l'heure à propos des luttes féministes et antipatriarcales, on lâchera rien, on continuera, on perd pas espoir et on se battra pied à pied contre la peste brune. Voilà, c'est sur